Bon, merci d'avoir téléchargé le podcast numéro 4. Je prends quelques instants avant de vous refaire écouter la critique 39 et la critique 40 pour discuter de 2-3 choses. Tout d'abord, pour faire un peu différent, je dirais, de la critique de Mage the Awakening, j'ai décidé de séparer la critique de Geist en deux. La première partie, la 39, le côté plus léger, plus intéressant, l'histoire, le pourquoi, le comment. Et la critique numéro 40, là je m'en vais dans le cœur de la bête, les rouages, la magie, les manifestations, ces choses-là. J'ai vraiment pas voulu faire comme Mage, c'est-à-dire tout lancer en 18 minutes, puis après ça vous dire salut. Donc après les deux critiques, c'est-à-dire la 39 et la 40, vous avez 6 à 8 minutes de commentaires que j'ai coupé au montage. C'est rare que je fais ça, couper au montage, mais je l'ai fait parce que des fois je trouvais que c'était un peu... Je laissais déborder mon imagination ou ben non, que c'était absolument pas à propos. Donc j'ai gardé tout ça, je l'ai mis à la fin. Donc c'est original un petit peu, c'est rafraîchissant, c'est pas comme mon ton quasi monocorde et de lecteur de nouvelles, comme j'appelle des critiques normales. Bon, ben merci encore une fois, puis je vous laisse à une musique de Gojira, un groupe français d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue pour ma 39e critique et la première partie de la critique de Geist de Sin Eater. Eh bien oui, encore une fois, j'ai succombé au démon de l'achat compulsif et j'ai acheté à fort prix le dernier publié par White Wolf et lancé au début du mois d'août à la Gen Con Indie. Pour la première fois, je parle d'une nouveauté. Dans cette critique, nous nous intéresserons au monde du Sin Eater. Qui il est, qu'est-ce qu'il est et pourquoi il existe. Mais aussi, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un Geist? Qu'est-ce que l'Underworld et encore plus? Dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la critique 40, nous parlerons des règles qui régissent le monde de Geist de Sin Eater. Mais ça, ce sera pour la prochaine critique. La première question à laquelle je dois répondre est la suivante. Pourquoi Geist? Pourquoi j'ai acheté à plein prix ce livre? Eh bien, parce que Geist se rapproche plus d'un jeu paranormal comme Hunter the Vigil que d'un jeu surnaturel comme Vampire, Werewolf ou Mage. Mais ça, c'est mon opinion. Et certains d'entre vous trouveront du surnaturel dans toutes les gammes du monde des ténèbres. Geist est un jeu de seconde chance. Votre personnage meurt et pendant une fraction d'éternité, il est projeté dans la mort. Elle ne fait qu'un avec lui. Et c'est dans cette fraction d'éternité que le Geist propose une entente avec le personnage. Il entre en lui et en chasse la mort. C'est ce qu'on appelle le marché. Avec un M majuscule. Si la mort accepte, il reprend vie avec une présence en lui. Alors commence sa nouvelle vie de Sin Eater. Cette présence a bien entendu son agenda, ses motivations, et tout le défi du maître du jeu et du joueur consiste à faire vivre cette association ou cette opposition. Avant de commencer la description du livre de base, il serait intéressant de savoir ce qu'est un Geist. Tout d'abord, un Geist n'est pas un fantôme comme on peut le lire dans le Book of Spirits. C'est une entité hors de ce cadre. Il est explicitement dit que la nature du Geist est vague pour laisser la place à l'imagination des maîtres et des joueurs pour trouver cette explication. Alors, qu'est-ce qu'un Geist? Une réponse juste serait une parcelle d'âme humaine qui s'est accrochée à la vie pour traverser les portes de l'Underworld et prendre comme hôte un être humain? Que sais-je? Et pourquoi font-ils ça? Soit pour vivre à nouveau des sensations humaines, soit pour terminer un travail, soit qu'ils sont des immortels et qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse précise. Désolé. Un sénateur est un geist à l'intérieur de lui, développe assez rapidement de nombreux pouvoirs qui ont trait aux fantômes. Il est capable de voir les fantômes, et les fantômes sont capables de le voir et de lui parler. Ce phénomène s'accompagne de nombreux problèmes. Le premier est que sa vie devient vite invivable quand tous les morts lui demandent des services. En faisant les jeux nécessaires, un sénateur est capable d'ignorer la présence des fantômes. Et il se doit de le faire car sa santé mentale en dépend. Outre ce pouvoir, la connexion du Geist avec l'Underworld est telle que le sénateur est capable de déterminer l'âge de n'importe qui, la cause de la mort d'une personne, juste en la touchant. Nous verrons ces détails sur les pouvoirs du sénateur dans la critique numéro 40. Pour ceux qui ont lu l'excellent livre Second Sight ou encore le Book of Spirits, un sénateur se rapproche énormément d'un médium qui communique avec le monde des esprits. Les similarités sont très grandes, mais c'est dans le processus que tout diffère. Le sénateur détient ses pouvoirs de son geist et ce ne sont pas des pouvoirs psychiques. Il a un lien très fort avec l'Underworld, le lieu où les âmes vont quand elles sont libérées de leur emprise physique. Il est capable de s'y rendre et d'en revenir, mais chaque voyage est très dangereux. Dans la prochaine parution prévue pour novembre 2009, White Wolf publiera un livre concernant ce plan d'existence. Ce livre s'intitulera Book of the Dead. Les sénateurs n'ont pas d'organisation fixe, mais comme dans Under the Vigil, il existe des regroupements qui ressemblent davantage à des gangs de rue semi-hiérarchisés que des organisations structurées. Pour montrer toutes les possibilités, les auteurs ont décrit trois niveaux structurels chez les sénateurs. Le premier se nomme le culte. Il regroupe une dizaine de membres qui ont des affinités communes, des rituels communs et des expériences communes. Ils peuvent être de toute nature, démocratique, despotique, avec une hiérarchie ou non. C'est un regroupement qui est constitué par les circonstances ou avec une cause commune. Le deuxième niveau est un regroupement de plusieurs sectes sous une même direction politique. Il est dit que peu de sénateurs veulent de tels regroupements car le fait qu'ils ont été touchés par la mort les pousse continuellement à refuser les responsabilités pour profiter du moment présent. Le dernier niveau se nomme une conspiration. Les auteurs nous disent explicitement qu'il n'en existe pas. Cependant, si ça vous intéresse, les auteurs en décrivent trois. Comme vous pouvez le constater, Geist the Sénateur peut être joué à différents niveaux de l'échelle politique. Le seul qui n'a pas été mentionné est le solitaire. Personnellement, je pense que le sénateur solitaire est beaucoup plus inspirant parce que les regroupements de médiums qui communiquent avec les morts me semblent alléger le fardeau qu'il porte sur ses épaules. De plus, l'univers du monde des ténèbres permet une hybridation des gammes et il serait vraiment dommage pour un maître du jeu de passer à côté de la possibilité d'intégrer plusieurs types de personnages à sa campagne. Il pourrait y intégrer un joueur qui incarnerait un hunter, un autre un sénateur, un autre avec un humain avec le talent de Sleepwalker, et peut-être un dernier, un psychique. À mon avis, ça donnerait quelque chose de vraiment bien. Puisque les sénateurs ont la possibilité de se regrouper, les auteurs expliquent qu'ils ont un réseau de communication appelé le Twilight Network. Ce réseau est en fait une multitude de canaux de communication. Je vous donne quelques exemples. Un sénateur arrive dans une nouvelle ville. Il fait publier un faux avis de décès dans la rubrique nécrologique du journal local avec un message codé. Ce message peut demander à rencontrer d'autres comme lui ou encore avertir les autres sénateurs de la présence d'un fantôme intraitable dans le sous-sol d'une école, par exemple. Ça peut être aussi un graffiti sur une pierre tombale, un forum de discussion sur invitation seulement, un pamphlet accroché sur un mur, un magazine, une émission de télévision, et j'en passe. Tous les moyens sont bons. De plus, tous les messages sont encodés. Personne en dehors d'un fanatique de la théorie de la conspiration ne viendrait à bout de comprendre ce qui est dit dans ces messages. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi tant de secrets? Ce n'est pas dans la nature d'une organisation secrète de rester secrète? En tout cas, c'est la seule réponse que je peux donner. Autre question. Comment un sénateur peut connaître tous ces codes et les décrypter? Les auteurs proposent une explication très simple. Un Geist transmet un certain nombre de connaissances à son hôte lors du marché entre eux. C'est simple, mais probable. Comme vous pouvez le constater, j'ai mentionné pas mal de détails concernant la nature du Geist et du sénateur. Mais ça nous renseigne toujours pas sur ce que fait précisément un sénateur avec ses pouvoirs. Eh bien, un sénateur est un personnage qui est spécialisé dans le domaine des fantômes. Il peut les aider à se libérer des ancres qui les retiennent dans le monde matériel, il peut les exorciser pour les renvoyer dans l'underworld, ou encore il peut simplement les détruire. Il peut aussi les manipuler, les rendre esclaves s'il est capable, et encore plus. Mais laissez-moi vous montrer comment ça peut devenir compliqué. Les fantômes sont des menteurs qui manipulent les vivants. Pour ceux qui ont lu le Book of Spirits, vous comprendrez que la nature du fantôme qui hante un lieu ou une personne peut être multiple. Il peut posséder les vivants et attirer une clique autour de lui. Rester près d'une personne aimée et la rendre folle, il peut hanter une maison, un quartier ou une ville. Il peut commettre des meurtres à partir du monde des morts, se cacher dans le Twilight, et j'en passe. Pour un fantôme, un sénateur n'est pas le bienvenu. Il mentira, se cachera, mais fera tout en son pouvoir pour ne pas quitter le monde matériel. Il pourrait par exemple lancer ses suivants humains à la poursuite des sénateurs et même utiliser son numina pour les attaquer. Je crois que vous avez compris le principe. Certains fantômes sont plus tordus que d'autres, et les possibilités d'aventure sont multiples. Tout ce qu'il faut, c'est de décloisonner l'idée que vous avez du fantôme et alors vous êtes prêt pour une belle balade. En plus des fantômes, il est très possible qu'un sénateur s'oppose à d'autres sénateurs. Il est aussi très possible qu'un sénateur s'oppose à un mage qui a développé l'arcane mort avec assez d'efficacité pour qu'il manipule les fantômes et les retienne prisonniers dans son pouvoir. Et imaginez ce que l'on peut faire avec les vampires ou encore les loups-garous. Eh bien, c'était ma 39e critique. J'espère que vous avez apprécié. D'ici une ou deux semaines, je serai en mesure de publier la deuxième partie de la critique de Geist de Sénateur. Eh bien, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine! Pour ceux qui n'auraient pas écouté la première partie, je vous conseille fortement de vous reporter à la critique numéro 39. J'y présente les grandes facettes de Geist. Dans la première partie, nous avons vu le côté « fluffy » de Geist. Maintenant, je vous présente le cœur de la bête, ce qui fait fonctionner les rouages de la machine. Premièrement, les archétypes. Les archétypes, comme le nom l'indique, sont des cadres de personnalité dans lesquels vos joueurs vont interpréter leurs personnages. Pourquoi établir un cadre? Pour le même principe qui régit les vices et les vertus. Pour gagner des points de quelque chose. Si vous interprétez votre vice, vous regagnez un point de willpower. Si vous jouez votre vertu, c'est tous vos points de willpower que vous regagnez. Si vous jouez votre archétype avec votre vice ou votre vertu, vous regagnez des points de willpower et des points de plasme. Bien entendu, un archétype n'est pas une ligne de conduite que vous devez suivre absolument. Il m'apparaît plutôt comme un élément de personnalité qui fait surface lors des choix moraux que le personnage devra faire dans son aventure. Et il y a 8 archétypes. L'avocat, qui termine le travail des morts. Le bone picker, qui qui est un charognard qui utilise ses pouvoirs pour rendre son monde plus confortable. Et ensuite, il y a le célébrant. C'est lui qui profite du moment présent, sachant que la mort viendra encore le prendre. Il y a le gatekeeper, ou le gardien, si vous préférez. C'est lui qui fait la police à la frontière de la vie et de la mort. Et il y a le mourner, le plus dépressif des archétypes. Il sait qu'il vit sur du temps emprunté. Bon, ça vous donne un peu l'idée. Au lieu d'être joyeux comme le célébrant, ben, il est plutôt triste. Ensuite, il y a le nécromancien. Celui-ci est à la recherche des connaissances occultes sur la mort. Ensuite, le pilgrim ou le pèlerin. C'est lui qui encourage les gens à vivre une bonne vie pour qu'ils ne reviennent pas sous forme de fantôme. Oui. Et en dernier, il y a le reaper ou le moissonneur. C'est ce dernier qui donne la mort à ceux qui polluent le monde de leur présence. Une fois déterminé votre archétype, il faut savoir comment est mort votre Sin Eater. Pourquoi? Parce que sa mort donne une saveur très particulière au pouvoir qu'il pourra manipuler. Pour aider à choisir, les auteurs ont réduit les types de morts au nombre de 5. Il y a la mort par violence, par privation, par nature, par maladie et, bien entendu, par chance. Choisir une catégorie de mort pour son Sin Eater se nomme choisir un threshold ou un seuil. Comme je viens de mentionner, chaque seuil donne accès à des pouvoirs particuliers. Ces pouvoirs se nomment manifestations. Chaque manifestation est liée à un attribut ou à une compétence. Et il y a 7 manifestations. La première se nomme le Boneyard. Elle permet de contrôler son environnement immédiat. Le deuxième, le Coal, permet de transformer son corps en une forme de monstre innommable. Ensuite vient la Curse, malédiction. Ça permet au Sin Eater d'infliger d'étranges malédictions à ses ennemis et même de contrôler leur esprit. Ensuite vient la Marionnette. La marionnette donne le pouvoir de contrôler les objets, hommes ou animaux. Ensuite vient l'Oracle, qui donne le don de clairvoyance et augmente les capacités sensorielles du Sin Eater. Ensuite vient la rage. Ça donne une force exceptionnelle pour les combats, bien entendu. Et en dernier lieu, le shroud. Ça permet une modification du corps du Sin Eater en vue de le protéger. Donc les manifestations, en plus d'être influencées par la nature du seuil, sont aussi influencées par des clés. Une clé est la pollution émotionnelle du pouvoir du Sin Eater. La première clé est élémentaire, elle est représentée par les 4 éléments. Ensuite, il y a la clé industrielle qui donne le pouvoir d'influencer les machines. Il y a la clé de la passion qui permet de manipuler les émotions. Il y a la clé fantasmatique qui permet de créer des illusions. Il y a la clé primitive qui permet de contrôler les animaux ou la forêt. Il y a la clé de l'immobilité qui permet d'être invisible au sens des autres. Et il y a la clé du stigmate. Cette clé permet de contrôler les fantômes et esprits à travers le sacrifice du sang. Chaque clé permet un certain niveau de manipulation ou de contrôle dans la manifestation qui la concerne. Pour mettre en fonction ses pouvoirs, le Sin Eater doit dépenser des plasmes, ou plasmes si vous préférez ma traduction. Le plasme est la force ectoplasmique vitale des fantômes. Les Sin Eaters sont capables d'en entreposer en eux. À chaque utilisation d'une clé, ils doivent dépenser des plasmes. Cette dépense est gérée de la même façon que les manas dans Mage the Awakening. Pour mesurer la puissance de tous ces pouvoirs de l'outre-tombe, le Sin Eater se sert de la psyché. La psyché représente le lien entre le Sin Eater, sa détermination mentale et son geist. Autrement dit, chaque point en psyché augmente la force des manifestations. Comme dans Mage the Awakening, chaque point de Gnosis augmente la force d'un sort. Ensuite vient la synergie. Ce nouveau système remplace la sagesse de Mage the Awakening ou encore la moralité dans la gamme de mortels. Par contre, elle est beaucoup plus spécialisée que dans toutes les autres gammes. La synergie représente le lien qui unit le Sin Eater avec son Geist. Plus le lien est fort, plus le Sin Eater a de la facilité à utiliser certains pouvoirs et à rester en contrôle de lui, à garder le contrôle du lien entre lui et son geist. De plus, La synergie sert aussi de moralité. Si le Sin Eater fait une action qui va à l'encontre de sa moralité, il perd de la synergie, donc du contrôle sur son geist, donc il devient susceptible d'en perdre encore plus à la prochaine mauvaise action, et ainsi de suite jusqu'à devenir une marionnette de son geist. Bon, j'arrête la description car je ne peux tout dire au sujet des pouvoirs du Sin Eater. Je vous ai quand même dressé le portrait général. Ça vous donne une idée un peu de comment ça peut fonctionner. Mais pour tout vous dire, j'ai passé sous silence les effets du plasme sur les blessures, les cérémonies qui sont des incantations que les Sin Eaters apprennent d'un maître, les mérites donnés par les trois niveaux hiérarchiques, la gestion d'histoire, les fantômes, les mementos, qui sont des objets qui rappellent la mort du Sin Eater et qui servent au voyage dans l'Underworld, et la description de la ville de New York, la ville des Sin Eaters. Au final, Geist the Sin Eater est un jeu plus intéressant que Hunter the Vigil, Vampire, Werewolf, et moins que Mage the Awakening, Promethean ou encore Changeling. Il n'en reste pas moins que Geist a un très bon potentiel de développement, car les histoires de fantômes et d'au-delà sont une facette importante de notre culture. L'arrivée de ce jeu vient combler un vide. Cependant, je tiens à apporter quelques nuances. Geist est un jeu qui recoupe des thèmes déjà exploités dans le monde des ténèbres. Alors, posséder ce livre n'est pas une condition sine qua non pour jouer un médium aux prises avec les morts. De plus, White Wolf publiera un seul supplément pour cette gamme. Alors, connaissant la facilité avec laquelle cette maison d'édition est capable de produire de la logorée en quantité, je ne suis pas surpris qu'ils aient compris le côté limitatif de cette gamme. Eh bien, c'était ma 40e critique et la 2e et dernière partie de la critique du livre de base Guys the Sin Eater. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux ou celles qui voudraient en savoir un peu plus au sujet de cette gamme ou qui voudraient m'entendre dans un cadre moins formel, je vous conseille de télécharger le podcast numéro 4. J'ai mis la critique 39 et 40 à la suite et j'ai ajouté un bon 10 minutes de commentaires exclusifs. Super! Vous pouvez télécharger le podcast sur mon blog dont l'adresse défile à l'écran présentement. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. D'après mon expérience de lecture, je peux vous dire qu'avec juste le livre de base, on peut accomplir de brillants exploits. Cependant, je tiens à vous montrer de quelle façon on peut utiliser les différents livres publiés par White Wolf pour créer une campagne qui ait du bon sens. Il y a une série de livres qui me vient en tête. Tout d'abord, Predator, pour la gamme de Werewolf, The Book of Spirits, la gamme de Mortels, Second Sight, ici pour la gamme de mortels, Ghost Stories, encore pour les mortels, et Astral Realms de la gamme de Mage the Awakening. Bon, Predator. Predator, c'est un livre pour Werewolf, comme j'ai dit. On y retrouve des entités super puissantes que les loups-garous peuvent combattre. Grâce à ce livre, vous avez sous la main tout ce qu'il faut pour créer des antagonistes de puissance surhumaine. Bien entendu, ils sont capables de tuer les loups-garous, alors vos Sin Eaters ne feront pas long feu dans un combat singulier. Cependant, en dosant ou en simplement en prenant tel quel un de ces monstres, vous pouvez élaborer quelque chose de très bien. Ensuite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le Book of Spirit. Je pense véritablement que c'est LE livre à posséder pour jouer à Geist the Sin Eater. Dans ce livre, vous trouvez toute l'écologie du Shadow, comment vivent les entités qui y habitent, et une belle description de ce monde. Vers la fin du livre, vous avez toutes les spécifications pour créer un fantôme pour vos aventures. Je vous conseille fortement de vous procurer ce livre-là si vous voulez jouer à Geist, parce que c'est une mine d'or. Ensuite, la mine d'argent, Second Sight. Contrairement à Predator ou le Book of Spirit, Second Sight, c'est un livre que je qualifie d'un à côté. Il ne traite pas nécessairement des fantômes, d'esprits, de plans d'existence différents, ni même d'ennemis mortels. Mais il traite en détail des pouvoirs psy. Il y a tout un attirail dans ce livre pour créer un personnage qui peut sans problème faire le travail d'un Sin Eater, ou du moins en partie. Il y a toute une série de pouvoirs psychiques ou thaumaturgiques qui se mêlent facilement à l'univers d'un Geist. Puis même si vous jouez pas à Geist, c'est la mine, c'est le livre qui a la médaille d'argent dans ma collection chez White Wolf. Pour tout vous dire, là, j'ai vraiment adoré. Ensuite, Astral Realms. Bon, je sais que c'est un livre qui appartient à la gamme de Mage Awakening. Mais outre le Twilight et le Shadow, un sénateur pourrait éventuellement se retrouver dans le plan astral. On peut facilement imaginer un fantôme qui hante l'esprit d'une personne. Un de mes amis m'a posé une question à laquelle je dois répondre. Est-ce que Geist de Sénateur n'est pas un jeu qui a déjà été traité dans les suppléments de la gamme de Mortel? Répondre oui reviendrait à dire que Geist n'a pas sa place. Il est caduc parce que les auteurs de White Wolf ont déjà traité le sujet ailleurs. Mais quand il m'a posé la question, j'ai pas répondu immédiatement. Je lui ai dit que les auteurs de White Wolf ont la fâcheuse habitude de reprendre des sujets et de les exploiter d'une nouvelle façon. Maintenant, après avoir réfléchi à sa question, j'ai décidé de lui répondre que oui. Le thème de Geist et des fantômes a déjà été traité dans le Book of Spirits ou encore dans Ghost Stories. Ça revient à dire que Hunter de Vigil est tout aussi inutile que les livres de la gamme de Mortel. On peut facilement créer un personnage avec des pouvoirs similaires. Pourquoi ce doublement? Bon, j'ai pas la prétention d'apporter une réponse à cette question, mais ma carte de crédit pourrait vous répondre. J'ai pensé aussi à la nature du jeu et comment on pourrait le rendre encore plus morbide. Plus mature, entre guillemets. Pour reprendre les thèmes des fantômes, on pourrait imaginer que les fantômes d'une famille hantent la maison dans laquelle ils sont morts voilà bien longtemps. Le père, à l'époque, a tué ses enfants et sa femme dans un accès de rage. Même mort, le fantôme du père terrorise sa famille et commet encore et encore les mêmes meurtres. C'est assez morbide, ça. On pourrait pousser ce principe encore un petit peu plus loin, en reprenant l'idée du père qui a tué sa femme et ses enfants et qui est maintenant interné dans un asile psychiatrique. Les sénateurs découvriraient que le père meurtrier est hanté par le fantôme de son père. Cependant, le fantôme paternel se trouve dans sa tête et hante son monde astral. Les médecins pourraient prendre ça pour une psychose aiguë, mais les sénateurs connaîtraient la vérité. À mon avis, il faut juste écouter les actualités judiciaires et les faits divers à la télévision pour trouver des sujets ou encore des thèmes à exploiter pour vos aventures. Mais dans tout ça, les joueurs ont affaire avec les fantômes prisonniers du monde matériel, incapables de se libérer de leur ancre. Dans peu de temps paraîtra le Book of the Dead, le seul supplément que White Wolf publiera pour la gamme de Geist. Dans ce livre, on trouvera une description très détaillée de l'Underworld. Et à partir de là, les antagonistes de Sinister seront un peu plus nombreux que ce que l'on peut retrouver dans le livre de base. Et j'ai bien hâte de mettre la main là-dessus, parce que je vais sûrement en parler dans une critique. Eh bien, c'est ce qui conclut mon super commentaire du podcast. Eh bien, merci d'avoir téléchargé mon podcast numéro 4. Et à peut-être la prochaine fois. Merci, au revoir. Bon, maintenant que c'est terminé, je vous laisse sur une belle chanson, ou plutôt dire la moitié d'une chanson, parce que je veux pas que mon MP3 dépasse les 50 mégs. Merci encore et à la prochaine.